Alors bonjour, aujourd'hui dans le cadre de la Semaine européenne de la fertilité, on reçoit Déborah. Bonjour.
Bonjour Virginie.
Alors Déborah, toi j'ai souhaité t'inviter à témoigner de ton parcours de patiente en assistance médicale à la procréation. Alors est-ce que tu peux nous donner dans les grandes lignes quel a été ton parcours d'AMP?
Oui, alors avec mon mari, on s'est rencontrés très jeune. J'avais 17 ans et lui avait 21 ans. Voilà, et on s'est rapidement installé pour. Moi, j'étais encore étudiante, lui travaillait déjà, donc lui était déjà dans la vie active. On s'est installé vers la vingtaine. Et puis, mon désir d'enfant, je l'ai eu très tôt, je l'avais dès le départ. Et. Vers 24-25 ans, on s'est marié et juste après le mariage, on a lancé les essais pour avoir un bébé. Ma crainte était de tomber enceinte
Trop vite.
trop vite au mariage.
Ne pas
Trop
pouvoir
vite
entrer dans
d'être
ta
mariée.
robe de
Ne
mariée.
pas pouvoir rentrer dans la robe. Donc 3 mois avant le mariage, j'ai arrêté la pilule. Donc
D'accord.
en juillet 2010. Voilà. J'avais été diagnostiquée avec un syndrome des ovaires polykystiques plus tôt, à un moment où je crois que j'étais sous pilule, j'avais des symptômes type déjà des aménorrhées, et puis quand j'avais des règles, j'avais des saignements un petit peu anarchiques, donc j'avais été consultée et on m'avait diagnostiqué un syndrome des ovaires polykystiques. Enfin, seulement sur une échographie sans faire de prise de sang. Et le gynéco de l'époque m'avait pas vraiment dit de quoi y retourner. Il m'avait juste dit que ça serait peut-être plus difficile pour avoir un enfant. Il faudrait pas tarder pour consulter quand ça serait le cas. Donc,
Et toi,
on a
tu
consulté rapidement.
t'étais renseigné plus à ce moment-là sur ce que c'était le SOPK ou
En
pas?
fait, vu qu'il a pas été alarmiste, j'ai jamais été. J'étais plutôt dans le déni de cette pathologie. En fait, pour moi, c'était un syndrome, pas forcément une pathologie. Et puis j'avais pas plus de symptômes que ça, en fait, que de dérèglement des cycles et pas de prise de poids, pas d'hirsutisme, pas de symptômes qui me dérangeaient plus que ça. J'étais jeune et moi, ce qui m'inquiétait, c'était la fertilité. Mais au-delà de ça. Ça m'inquiétait pas. Et en fait, il n'était pas alarmiste. Donc, pour moi, il n'y avait pas trop de problème. Il dit ça peut, mais ce n'est pas forcé que vous aurez des problèmes pour avoir un enfant. Et puis, Mathieu, de son côté, lui, il a eu une chirurgie testiculaire. Il a eu une torsion testiculaire avant les essais, quand on était déjà en couple. Et on savait aussi qu'il ne les a pas perdus. Il a consulté à temps, il s'est fait opérer à temps, mais il y a eu une souffrance quand même. D'un des deux testicules qui était avéré, et il y avait des fortes chances aussi que sa fertilité soit altérée. Donc, avec
D'accord.
ces deux diagnostics qui étaient déjà posés avant même les essais, ça nous a pas forcément stressé sur le moment, mais on savait que ça pouvait être plus difficile, sachant que dans ma famille aussi, j'avais une tante qui a fait une FIV, mon cousin, il a. Mon âge,
D'accord.
il a 36 ans, donc c'était dans les premiers bébés à l'épuve. J'ai toujours su, enfin dans ma famille, on a toujours su qu'il y avait un bébé éprouvette de
D'accord.
l'époque, c'est
Ouais.
comme ça qu'on les nommait. Et puis j'ai 3 cousines qui ont aussi eu recours à l'AMP, qui sont dans mes âges et qui ont eu besoin, donc j'étais déjà un peu sensibilisée sur le sujet. Voilà.
D'accord.
Après, par ma profession aussi, je suis infirmière, donc j'avais des connaissances, donc je savais vers qui me tourner.
OK. Donc vous vous mariez et une fois que le mariage est fait, après vous dites, allez, c'est bon, on peut faire des bébés.
Voilà,
Ça s'est
donc
pas vraiment passé comme ça.
ça s'est pas passé comme ça parce que moi je consulte du coup le gynéco au bout de après le mariage, 6 mois après l'arrêt de la pilule. Et à ce moment-là, on avait aussi le projet de partir en Nouvelle-Calédonie vivre parce qu'on était en métropole à l'époque. Là, on vit à Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Et ça a compromettait aussi les... Enfin, il fallait le prendre en compte dans notre désir. Donc, on a été consulté et il m'a dit, bon, ouais, effectivement, on peut en mettre en place un traitement, mais ayant le projet de s'expatrier, quitter nos emplois et partir à l'aventure, on n'a pas mis en place de traitement. Donc, on est arrivé à Nouméa en mai, l'année suivante. Et en mai 2011, j'ai commencé à consulter et là, c'est suivi un parcours... de plusieurs gynécos. J'en connaissais pas arrivé sur place. Je savais pas, par contre, qu'il y avait des gynécos qui étaient spécialisés en infertilité. Donc, j'en ai consulté un premier qui nous a fait des examens, qui a du coup fait des prises de sang hormonales pour bien diagnostiquer le syndrome, enfin confirmer le syndrome des ovaires polykystiques, faire le spermogramme. Tout ça. Quand on a fait tous les examens, il nous a orienté vers un médecin, un gynéco, un de ses consoeurs qui était spécialisé pour une prise en charge.
D'accord.
On a commencé avec elle. Arrivée au premier rendez-vous, moi j'avais du coup 26 ans, Mathieu avait 30 ans, donc on était relativement jeunes. Mmh. On s'est senti pris, notre dossier pour elle était trop facile par rapport à ce qu'elle avait l'habitude de voir, surtout les couples qu'elle suivait, qui certainement avaient recours aux FIV avec des diagnostics et puis des âges plus avancés. Elle nous dit, hop, oh, ça. Il n'y a pas de souci chez vous, ça va marcher. C'est deux petits problèmes que vous avez. Et puis, elle me fait une échographie et là, elle décèle une ovulation directe. J'étais en phase pour elle ovulatoire et elle nous dit, bon, vous avez toutes vos chances. Voilà, elle ne voyait pas trop le problème. Donc, j'étais encore à cette époque-là dans le déni du fait que mon syndrome puisse vraiment causer une infertilité.
Ouais.
Elle nous prescrit quand même du Clomid n'ayant pas de grossesse. On a fait plusieurs cycles de Clomid avec elle. On peut augmenter les comprimés. On était à un comprimé. Ça ne fonctionnait pas. Elle ne voulait pas augmenter les comprimés. Je ne comprenais pas pourquoi. Et puis, il y avait toujours une heure d'attente, sachant que j'y allais pour le monitoring. Donc, j'allais deux fois au moins par mois ou trois fois la voir par mois. Et il y avait toujours une heure d'attente. Donc ça a commencé à démotiver Mathieu qui venait à tous les rendez-vous avant. Là, c'était plus possible avec son travail. Donc on a fini par changer. Un jour, elle n'était plus là pour faire le monitoring. Elle ne m'avait pas prévenue. Alors que j'avais pris les comprimés. Donc je suis allée voir le confrère d'en face. Lui, il a augmenté. Il n'était pas spécialiste vraiment. Il m'a dit, bon, je vous fais le monitoring, mais après, vous faites comme vous voulez, vous retournez avec elle ou avec moi. Et puis, on a fini par aller avec lui. Il a augmenté, donc ça me convenait, mais ça ne marchait pas.
Et vous avez fait combien de cycles comme ça, de stimulation?
Avec les deux, on m'a dit, on va faire 9 ou 10 déjà, sachant que jusqu'à 2, ou je ne sais pas quel est le maximum, si c'était 2 ou 3 comprimés. Donc, on en a fait quand même, on a perdu du temps. On a essayé, ça n'a pas marché, sachant que le spermogramme était déjà pas top.
Ouais.
Et quand j'ai voulu lui en parler à lui, je lui ai demandé, vous pouvez quand même jeter un œil au spermogramme, chose qu'il n'avait jamais faite. Il le regarde et il me dit, non, mais c'est normal, ça. Ils sont effectivement altérés, mais il y en a beaucoup. Donc, on le considère comme normal.
D'accord.
Et puis, il commence à me dire que c'était dans ma tête. Lui disais qu'on pouvait prendre des rapports programmés parce que moi, j'étais de nuit et mon conjoint était de jour. Donc, en fait, on se croisait à peine quand je partais au travail sur les jours où j'ovulais. Donc, c'était un réel problème. Et il me disait, non, mais de toute façon, vous débrouillez, vous faites ça dans l'entrée. Aucune prise en charge humaine et psychologique. Et puis, quand je lui disais que j'allais voir une ostéopathe pour essayer de m'aider, il me disait non, mais de toute façon, c'est dans votre tête que ça se passe, les hormones. Donc, faut pas. Voilà. À ce moment-là, j'étais très mal parce que j'avais aucun soutien. On n'en parlait pas au début des essais, on n'en parlait pas énormément à notre entourage. Je connaissais personne qui était dans mon entourage proche sur Nouméa confronté. Et puis, le médecin ne m'aidait pas non plus de son côté. Donc, j'ai rechangé de médecin. J'ai changé de médecin, je suis allée voir. J'avais une collègue qui faisait une FIV à l'époque qui m'annonçait qu'elle était enceinte de jumelles. Donc je me suis dit, c'est la solution. Je vais aller voir son médecin. Je suis allée voir sa gynéco qui, du coup, a dû reprendre les choses. En plus, je suis partie sans mon dossier du médecin précédent parce que je n'ai plus voulu le voir du tout. Donc je suis partie les mains dans les poches et j'avais juste les résultats des examens.
C'était une gynécologue spécialisée en infertilité.
Elle était spécialisée et elle travaillait avec le centre d'AMP.
D'accord.
Donc voilà, elle était en mesure de faire des inséminations, de faire des FIV, parce que lui, quand je lui disais, mais on ne peut pas passer à un autre traitement, on ne peut pas passer à l'insémination, parce que là, visiblement, ça ne fonctionne pas. Ah non, non, mais avec vos ovaires, de toute façon, il ne faut pas mettre d'injection, hein, vous allez mal réagir, donc ce n'est pas la peine. Ne doutez pas. Donc j'avais, en fait, j'avais pas de perspective. Vous savez pas, j'avais pas d'informations, pas de perspective, voilà. Donc elle nous a dit, bah oui, effectivement, ça fonctionne pas, mais j'aimerais bien revoir quand même avec le clomide comment ça fonctionne sur un ou deux cycles. Donc on a refait deux cycles de clomide. Donc je suis arrivée à un an de clomide, ce qui est quand même le maximum, qui est le recommandable. Et puis ça n'a pas fonctionné. J'ai pas eu de grossesse. Donc on est passé aux inséminations. Aux inséminations avec elle, on en a fait trois, je crois. Trois, d'accord. Ça n'a pas fonctionné. Donc, on est passé à l'étape des FIV. Elle nous a proposé de passer aux FIV parce que de toute façon, ça ne fonctionnait pas avec un ou deux follicules. Même des fois, j'en avais trois, donc on annulait les trois follicules. On m'a dit non, non, il y a un risque de tripler, donc on annule. Ça n'allait jamais comme il fallait.
Ouais.
Avec la FIV, elle me propose de passer en FIV. Et au premier cycle de traitement, je fais une hyperstimulation. Forcément, j'avais un peu les facteurs de risque avec un syndrome des ovaires polykystiques à un âge jeune. Toute petite dose, pourtant, j'étais à peine à 100, je crois, 100 unités. Et j'ai fait une hyperstimulation.
Ouais, tu as été hospitalisée, non ?
Pas sur celle-ci, elle a tout arrêté. Elle n'a pas voulu prendre de risque. Elle m'a dit, bon, bah là, on arrête, c'est pas la peine d'aller plus loin. Vos taux sont trop élevés, on arrête. On arrête. Et puis, le mois suivant, quand je veux prendre rendez-vous, il s'avère que c'était l'été, c'était les congés. Donc, on me dit, bah non, c'est pas possible, vous attendez la rentrée. Donc, j'attends la rentrée, ça passe 2-3 mois. De toute façon, mon corps, je pense, avait besoin de se remettre un petit peu aussi. Et puis, à la rentrée, elle m'annonce qu'elle arrête définitivement de faire de l'AMP.
D'accord.
Qu'elle me renvoie chez un confrère ou une consoeur. Donc, elle me laisse le choix entre deux, un en libéral, un à l'hôpital. Et jusqu'ici, travaillant à l'hôpital, je ne voulais pas aller à l'hôpital parce que je préférais rester en libéral. Mais je dis, bon, bah, ça ne fonctionne pas. J'essaie plusieurs libéraux. Quitte à aller dans un centre spécialisé, je vais aller consulter à l'hôpital. Donc, j'ai consulté à l'hôpital avec mes craintes de refaire une hyperstimulation, évidemment.
Donc là tu n'étais plus dans le déni du SOPK, t'étais...
Oui. Là, j'avais réalisé que le SOPK, il me posait bien des problèmes, oui.
Ouais, ouais, d'accord.
Oui. En tout cas, pour la fertilité, oui. Donc, je savais maintenant... Après, je me suis renseignée quand même au fil du temps. Je me suis renseignée que le SOPK donnait des risques d'hyperstimulation. Donc là, j'arrive avec la gynéco. C'est au moins la cinquième que je consulte. Je dis clairement que j'ai des craintes de refaire la même chose. Et elle me dit non, non, mais ça va aller. La sage-femme qui travaille avec elle me dit aussi... il n'y a pas de raison, elle a changé le... parce qu'il y a plusieurs protocoles, elle a changé le protocole, elle a changé le traitement. Avec ce protocole-là, il y a très peu de risques d'hyperstimulation. T'inquiète pas, ça va aller.
D'accord.
On repart en traitement. Et puis, les premiers taux ne sont pas bons. J'ai des taux de stradiol qui sont hauts. Donc, vu que la première fois, on avait déjà arrêté, elle me dit, bon, bah, on tente quand même, on y va, on va faire la ponction. Donc, on fait la ponction. J'étais en hyperstimulation. J'avais déjà, je ne sais plus combien j'avais de follicules, j'en avais énormément. Des ovocytes, j'en ai eu pas mal aussi. Et puis, quand il a fallu faire le transfert, je commence à avoir des symptômes d'hyperstimulation, donc le ventre gonflé, des douleurs, je ne me sentais pas bien. Le jour du transfert, le matin, j'ai vomi. Donc, je m'étais renseignée sur les risques parce qu'on m'avait peu informée des risques, je le savais puisque j'avais déjà fait la première fois je n'étais pas au courant, après je me suis renseignée et en fait j'avais tous les symptômes, je cochais toutes les cases déjà quasiment, donc je préviens le médecin, j'avais pas très envie parce que je voulais pas que le transfert soit annulé, mais je préviens le médecin et en fait c'était un week-end, c'était un médecin de garde, c'était pas ma gynéco et lui il avait juste envie de faire l'acte et puis repartir à ses occupations à l'hôpital, c'était pendant sa garde, donc il dit non, je lui en ai parlé, regarde mon ventre, il dit non, vous n'avez pas du tout un abdomen chirurgical, c'est bon, hein, arrêtez de vous plaindre. Donc on va faire le transfert, il me transfère un ou deux, je ne sais même plus, embryons qu'on avait réussi à avoir, qui n'étaient pas de super qualité, mais on était à J2 ou J3. Et en fait, il me fait le transfert et puis le lendemain, ça ne va pas. Et c'est ici que je me suis fait hospitaliser. Les symptômes n'ont fait qu'empirer. Je me sentais de plus en plus mal. Je m'étais au lit toute la journée. Je vomissais, je ne pouvais plus boire. Et puis, j'ai commencé à ne plus uriner non plus. Donc, j'étais en anurie totale. J'ai pris 10 kilos en quelques jours. Et là, il a fallu faire une hospitalisation. Je passe sur les détails de la prise en charge qui était chaotique les premières fois. On m'a fait rentrer chez moi la première fois où j'ai consulté. Je reviens le lendemain. Et puis, 24 heures plus tard, même pas, j'étais en réanimation parce qu'il a fallu poser des cathéters. J'étais à la limite du drain pour évacuer le liquide qui était en plus. Et voilà, j'ai eu un traitement et qui a heureusement été efficace. Et dans notre malheur pour cette hyperstimulation, en fait, ce qui m'a sauvée dans une hospitalisation trop longue, c'est que l'embryon ne s'est pas accroché. Il se serait accroché sur ce transfert-là. J'aurais pu être un mois dans cet état. Là, ça a quand même assez rapidement régressé. J'ai dû être hospitalisée 5-6 jours. En reperdant, c'était une hospitalisation difficile, mais quand même, somme toute, assez courte. Donc là, je fête mon anniversaire à l'hôpital, sans bébé, avec ma première fille qui ne sonne pas. Je ne sais plus en quelle année c'était, mais j'étais. Je crois que c'est là où j'ai eu 30 ans. Non, 26, je sais plus, je sais plus les dates, mais voilà, c'était difficile psychologiquement parce que j'avais espoir en la FIV par rapport au traitement avant qui n'avait pas fonctionné, puis là, dégringolade, la FIV
encore pire.
ne fonctionne pas non plus pour nous. En plus, les résultats des embryons n'étaient pas top. On ne pouvait même pas les pousser au stade de blastocyste. Ils étaient fragmentés, on nous dit ils sont pas beaux, même s'ils sont pas beaux, bon, ça peut donner des bébés, mais pas des résultats mirobolants. Ce qui me fait tenir quand même, c'est de pouvoir recommencer, malgré la difficulté. Je me dis faut que je puisse refaire, parce que moi, mon vœu, c'est d'avoir un bébé, et je sais que j'y passe, donc j'avais la crainte. Par contre, je voulais toujours être avec le même médecin. Je sais, bon, maintenant, je ne change plus de médecin. Si cette gynéco reste là, je lui fais confiance. Je sais qu'elle a tout fait pour éviter que je fasse une hyperstimulation. Elle était grave, mais ce n'était pas volontaire. Elle est venue me voir tous les jours à l'hôpital, même en réanimation, elle passait me voir. Elle s'en voulait, parce que pour un médecin, c'est une crainte d'avoir son patient qui finit en réanimation, évidemment. Et voilà, le lien s'est vraiment établi avec elle, et la confiance était là. Donc, on est reparti avec la même gynéco pour une deuxième FIV. Et puis, la deuxième FIV s'est passée 3-4 mois plus tard. Et là, les résultats étaient encore moins bons. Les embryons, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait pas mal de follicules. J'étais encore en hyperstimulation, mais plus contrôlée. Et les embryons, en fait, ils n'étaient pas beaux. Le biologiste nous reçoit, dit bon, bah voilà, en fait, il y en a trois, mais ils sont tous les trois vraiment pas beaux, ils sont tous fragmentés. Je vous propose de mettre les trois. En vrai, il n'aurait pas fallu faire de transfert parce que c'était une fille qui était décomptée. Mais vu les circonstances, pour moi, d'arriver jusqu'à la ponction, c'était dangereux. Ça restait un acte quand même dangereux pour moi. Donc. On les a mis, enfin, on a transféré les trois. On avait peu d'espoir d'avoir des triplés, hein. Et on espérait quand même qu'un ou deux puissent s'implanter, parce que ma collègue qui avait eu des jumelles, c'était des pas beaux qui avaient été transférés, et elle a vu des belles jumelles. Je savais que ça n'empêchait pas, je restais positive, mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné sur la deuxième file.
Et vous avez fait combien de fives au total?
Au total, on a fait 5 fives. La troisième, on a voulu essayer de pousser un petit peu plus loin les examens, savoir un petit peu plus. La biologiste de l'époque, c'était sur la troisième, oui. La biologiste de l'époque, elle venait de Lille, et elle disait peut-être qu'on peut tenter de faire une chirurgie. La gynéco m'en parlait aussi, mais à Nouméa, c'était pas vraiment possible. Donc, je suis partie en Evazane, en métropole, pour faire la troisième FIV à Lille avec l'équipe du CHU.
D'accord.
Et donc, bon, évidemment, crainte de l'hyperstimulation, donc le médecin reste très prudent. Avant la FIV, j'ai fait un premier voyage pour faire un drilling ovarien, pour essayer de, de calmer les symptômes des ovaires polykystiques sur les stimulations. Et puis,
et quand, quand tu dis un premier voyage, c'est combien d'heures d'avion, là, Nouméa, la métropole?
C'est 20 heures, je crois, 20, 24 ouais. heures et 30 heures de voyage.
Pour faire un draining ou pour faire une FIV, c'est...
Voilà. J'ai fait un premier voyage l'été, 2014, je crois. Et on a fait un draining ovarien en région parisienne. J'ai fait des vasanes sur deux hôpitaux différents parce qu'il y avait un hôpital qui était spécialisé sur la chirurgie des ovaires. Et l'autre qui était spécial, enfin, par rapport aux ovaires polykystiques, avec un professeur qui est très réputé. Et le deuxième voyage, j'avais, en fait, pendant l'été où on a fait le drilling, j'ai consulté, j'avais pris avis sur une dizaine de centres PMA en France par rapport à notre dossier qui était assez complexe pour avoir des avis. Et j'ai eu une réponse de beaucoup de centres, en fait. Notre dossier a pu passer en staff dans beaucoup de centres. On nous a donné des réponses, on nous a donné des indications sur ce qu'il serait bien de faire. Et donc, plusieurs avaient émis l'hypothèse de faire un drilling ovarien, donc le drilling qu'on a fait, qui s'est bien passé, sans souci. Par contre, il fallait du repos entre les deux. On ne pouvait pas faire la FIV le cycle suivant. Donc, je suis retournée en Nouvelle-Calédonie pour travailler et je suis repartie après à Lille.
D'accord.
À Lille, on a fait une FIV et j'étais limite hyperstimulation, mais mieux contrôlée. Moins de symptômes que les fois précédentes, pas mal d'ovocytes. Mais au final, on a eu beaucoup de pertes au fur et à mesure des jours qui avançaient. Je ne sais plus, je dis 15 ovocytes peut-être le lendemain ou deux jours après, 5 embryons et puis à J5, il en restait un, je crois. Un ou deux, je sais même.
Et donc, vous l'avez transféré ?
Et on avait un blastocyste. C'était la première fois qu'on avait un blastocyste. Il nous avait dit à J3, bon, on tente le coup, vu que vous n'en avez pas eu, ce serait bien de le pousser, même s'il n'y en a pas beaucoup. Mmh. On les pousse, on voit. Ils ont transféré et puis il n'y a pas eu de process. Malheureusement, ce n'était pas miraculeux. En fait, il s'avère qu'apparemment, la qualité ovocytaire n'est pas là. Et puis, pendant ce temps-là, le spermogramme de Mathieu faisait le yo-yo.
D'accord.
Donc, on rentre en Nouvelle-Calédonie. Donc, toujours le ventre vide, toujours pas de bébé, les années qui passent. La gynéco me demande si je veux recommencer sur Nouméa ou continuer en métropole. On a continué sur Nouméa parce qu'on ne voyait pas vraiment de plus-value de le faire là-bas. Enfin, en métropole. Et on a refait des inséminations. On a dû refaire deux inséminations. Parce que par rapport à ma pathologie, les inséminations sont plus indiquées.
D'accord.
Malheureusement, avec la qualité du sperme de Mathieu, c'est pas top. Encore une fois, le centre a fermé à ce moment-là. Et le temps de la fermeture du centre, en fait, le spermogramme, le jour de l'insémination, il était pas bon. Et il avait perdu en qualité. Donc, on est vraiment pas raccord sur les traitements. C'est-à-dire que là, il nous fallait une insémination avec un bon sperme. On n'avait plus le sperme. Et puis, quand on fait des FIV... Le sperme est suffisant, mais les ovaires ne suivent pas. Donc, on fait deux inséminations, échec. On retente une quatrième FIV par la suite, plusieurs mois après. Je n'ai plus de détails.
Émotionnellement, comment tu gères sur toutes ces épreuves sur toutes ces années ?
Difficilement, cherche du soutien. Le soutien dans l'entourage, c'est compliqué parce que quand on rentre en métropole, les proches nous disent beaucoup de paroles blessantes. On est assez protégé en étant à Nouméa parce qu'au final, on n'a pas notre famille qui est sur place, donc on n'a pas les injonctions, soit d'aller bien, soit de ne pas y penser, on les a moins. Par contre, on se déclare quand on rentre en métropole parce qu'on n'y est pas habitué. Puis on en parle parce que les gens sont au courant au bout de plusieurs années. Et à Nouméa, ça se passe mieux parce que c'est de l'entourage amical. Et puis au travail, j'en parle un peu, mais en fait, je cible au fur et à mesure des années, je cible les personnes à qui j'en parle. Je ne peux pas le partager avec des personnes qui, je sais, ne seront pas bienveillantes. Donc, je cible, je fais attention, je choisis. Et puis, je m'entoure de personnes qui ont vécu la même chose. C'est là où j'ai senti, j'ai eu le plus de soutien, c'est des personnes qui ont vécu, qui vivaient aussi des parcours PMA, qui étaient dans l'attente, sur des échecs, hein, pas juste une FIV et puis ça fonctionne. Vraiment des longs parcours compliqués. Savoir qu'on n'est pas tout seul, que ça peut fonctionner, qu'il y a des solutions et qu'il faut se battre et qu'il faut se batailler pour pouvoir... pour pouvoir y arriver. Donc, c'est comme ça que j'ai trouvé de la ressource. Et puis, en fait, on voyage beaucoup parce qu'on a la chance d'avoir des salaires qui nous le permettent, d'avoir du temps libre, d'être que tous les deux. Notre projet était d'aller vivre en Nouvelle-Calédonie et de fonder notre famille là-bas. Donc, certes, ça a été très compliqué, mais on avait un entourage amical à cette époque qui était vraiment très riche. Tous les week-ends, dès qu'on pouvait, on bougeait, on profitait de la vie. Donc, ça aide quand même à ce que ça se passe bien, okay. au mieux. Okay. Voilà.
Après, vous faites une cinquième FIV.
Quatrième FIV. Et puis les résultats, hypersimulation millimètre. On a quand même des embryons, je sais plus, 4 je crois, pas mal. Je crois que c'était le meilleur résultat. On a 4 blastocystes. Ouais.
Donc là, tu reprends espoir.
Ouais, je reprends espoir. On en transfère 2. Et deux congelés. Un frisol. Vu que j'étais en hyperstimulation, j'ai oublié. Ouais. En fait, on les a tous congelés. Il me semble que sur ce cycle-là, on les a tous congelés parce que le frisol commence à se faire, c'est-à-dire qu'on est en hyperstimulation. On les congèle tous pour faire des transferts ultérieurs sur des cycles où mon endomètre aussi est au repos parce qu'il a toujours aussi été assez fin. L'endomètre n'est pas propice. Mais ça, ça n'a jamais vraiment été exploré. Et du coup, on refait un cycle, un transfert sur un cycle suivant. Et puis là, sur le premier transfert des deux premiers blastocystes, on aurait pu faire un par un, parce qu'en plus, ils étaient congelés, mais on nous propose deux parce que les années passent. Et puis, en fait, là, début de grossesse.
D'accord.
Enfin. Mmh. On est en 2016. Début de grossesse, donc
là c'est temps, on change de catégorie, on monte dans les nuages, on est sur son petit nuage de bonheur.
Voilà, première prise de sang, deuxième prise de sang, tout va bien. Et puis en fait, il s'avère qu'à ce moment-là, j'ai eu des congés que j'avais annulés, que ma carte n'avait pas pris en compte. Donc, je me suis retrouvée avec 3 semaines de congés toute seule. Et du coup, j'en ai profité pour aller voir ma famille en métropole. Donc, Mathieu est resté en Nouvelle-Calédonie et moi, je suis rentrée pendant 3 semaines. Et à la dernière minute, pas prévu. Et du coup, je dis à la gynéco, à la sage-femme, ça va, il n'y a pas de risque que je prenne l'avion là, en tout début de grossesse. Non, profite. Tout va bien, il n'y a pas plus de risque que les autres que je fasse de fausses couches. Non, ça va aller, t'inquiète pas. La même sage-femme qui était très rassurante quand il s'agissait de faire une hyperstimulation. Ne stresse pas, tout va bien se passer. Donc je vais en France, assez confiante, et puis j'en parle tout de suite à ma famille. Je leur annonce la nouvelle, je ne pouvais pas attendre. Et puis tout le monde savait que j'avais plus ou moins fait une fille avant, donc voilà. Et puis, je programme la première échographie qu'on fait après les transferts vers 4-5 semaines d'aménorrhée, je ne sais plus, pour confirmer. Et puis, du coup, mon gynéco, j'étais en vacances, je n'étais même pas avec le gynéco que j'avais au tout début, le gynéco de famille que j'avais depuis adolescente, il n'était pas disponible. Enfin, je n'étais pas là-bas, donc je prends rendez-vous avec n'importe quel gynéco, je tombe sur une nana... pas du tout humaine. Elle me reçoit très froide et puis elle fait l'échographie. En fait, il n'y a pas d'embryon. Ouais. Et elle me dit, c'est vide. C'est noir, là, c'est vide. OK, ça veut dire quoi? C'est trop tôt? Il n'y a pas d'embryon? C'est quoi? Elle me laisse avec mes questions. Aucun soutien. Enfin, rien du tout. Elle me dit froidement, c'est vide et bon, j'ai peu d'espoir pour vous. OK. Donc là, vraiment très, très, très difficile. Loin de Mathieu en plus, toute seule pour avec les émotions. J'étais en vacances avec ma belle-sœur et ses enfants. Et c'était difficile de rester positive. J'en ai encore les larmes aux yeux parce que là, c'était compliqué.
C'est trop dur.
Ouais, c'était trop dur. Pourquoi tant d'acharnement sur nous? Pourquoi après tant de difficultés, c'est encore sur nous que ça tombe? Je sais que les fausses couches, ça arrive fréquemment, mais là, c'était trop d'acharnement. Pourquoi nous? Pourquoi encore? Pourquoi? La fin des vacances, c'était terrible. J'ai profité que la moitié, en fait. J'ai eu 3 semaines, j'ai profité 10 jours, et puis après, je faisais que de pleurer. J'étais inconsolable, je ne savais pas quoi me dire, parce que de toute façon, il n'y avait rien à dire. Du coup, je suis retournée voir mon gynéco, que j'avais adolescente, hein, qui me connaissait bien.
Ouais.
Puis lui était plus humain, évidemment. Et puis, il pensait qu'il allait me revoir quand il a vu mon nom, et puis... Il pensait qu'il allait me revoir, déjà maman et des enfants. Et je lui ai dit, ah non, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, je lui raconte un petit peu, puis il me fait l'échographie, puis il me dit, effectivement, il n'y a rien. C'est un œuf clair, donc ça sera une fausse couche. Il me dit, vous pouvez refaire une écho, mais bon, il n'y a pas de... Et puis, vu que je devais reprendre l'avion, 3-4 jours plus tard, il m'a dit, là, c'est compliqué de vous faire une intervention, vaut mieux que vous la fassiez à Nouméa. Donc j'ai repris l'avion, du coup, avec la grossesse qui était en cours, mais arrêtée, très particulier, avec le risque de faire une fausse couche. J'ai pris 2 ou 3 avions différents, et on se dit, si jamais on fait une hémorragie ou quoi, si j'évacue dans l'avion, comment ça va se passer? Enfin, j'étais vraiment pas bien, ni psychologiquement, ni physiquement. Au final, j'ai eu de la chance, il s'est rien passé. Je suis arrivée à Nouméa, il ne se passait toujours rien, je n'ai pas évacué l'embryon. Et j'ai reconsulté du coup, au centre, ma gynéco, elle était en vacances. Du coup, là, la sage-femme que je connaissais, pas du tout aidante, qui me dit, non, mais va voir ta gynéco d'avant. Non, mais ça fait 4 ans ou 3 ans qu'elle ne m'a pas vue. Qu'est-ce que je vais aller la voir? Et puis, je prends rendez-vous avec un gynéco à l'hôpital, puis je le sens pas, je le connais je le croise tous les jours, il dit jamais bonjour, je me suis dit, je vais encore tomber sur une personne qui est pas du tout humaine, donc je veux pas le voir. Et puis, je parle à une collègue pédiatre qui me dit, attends, j'en parle. Elle va voir une gynéco, et 2 minutes après, elle me dit, t'attends dans son bureau. Elle t'attend dans son bureau, et puis elle va te prendre en charge, et ça va aller. Je n'ai plus en état de travailler. Et elle me reçoit, et effectivement, on refait une échographie. Donc là, elle me dit, là, le diagnostic, c'est sûr, il n'y a plus de grossesse. Donc, soit tu prends des comprimés, ou soit on fait un curetage. Donc, j'ai choisi le curetage. J'ai plus envie de souffrir psychologiquement ou physiquement. Je voulais passer au bloc. Et puis, c'est ce qui s'est passé. On a fait une anesthésie générale, et ça s'est très bien passé. Enfin, je n'ai pas eu de complications derrière, et cette gynéco, elle était... Elle m'a laissé choisir le jour de l'intervention, elle m'a laissé choisir le nombre de jours où je voulais être arrêtée. Donc, je suis tombée sur une personne extrêmement humaine par rapport aux personnes que j'ai eues avant. Surtout pour moi, c'était presque... Pour moi, le centre de PMA, il est là aussi pour faire le SAV. Quoi. Ça ne fonctionne pas, et vous êtes là pour assurer derrière. Et là, ce n'était pas le cas. On me renvoie à débrouiller toute seule. Quoi. Voilà, donc... Cette quatrième FIV, donc la dernière, remboursée par la Sécurité sociale, nous avait donné beaucoup d'espoir, mais se solde encore par un échec.